Bonjour à tous. Je vous invite à revenir au XVIIe siècle, en 1654, avec le grand mathématicien, physicien, philosophe qui était Blaise Pascal. Il est victime cette année-là d'un accident de carrosse qui se passe sur le pont de Neuilly. Les chevaux s'emballent, foncent dans le vide. Le carrosse est précipité vers la Seine, et puis ceux qui retenaient le carrosse avec le cheval se cassent brutalement, et le carrosse se retrouve au bord du précipice, en équilibre instable. Pascal, qui est dans le carrosse, est sauvé in extremis, et il y voit vraiment une intervention de Dieu. Il n'était pas interpellé particulièrement par Dieu à ce moment-là. Et pour lui, ça a été un changement profond dans sa vie. Et quelques mois après, il a une expérience, une révélation particulière de Dieu. On a la date, le 24 novembre 1654. Dieu se révèle à lui d'une façon particulière. Il va transcrire cette expérience dans un petit document, un petit texte qui s'appelle le Mémorial de Pascal, qui va coudre dans la doublure de son vêtement. On va retrouver ces mots qui ont été écrits à ce moment-là, au moment de sa mort prématurée, à l'âge de 39 ans. Je vous cite quelques extraits de ce Mémorial de Pascal. « Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, nom des philosophes et savants, certitude, joie, certitude, sentiment, vue, joie, Dieu de Jésus-Christ, ton Dieu sera mon Dieu. » Attendez, je reprends la suite. « Oublie du monde et de tout, hormis Dieu. Il ne se trouve que par les voies enseignées dans l'Évangile. Grandeur de l'âme humaine, Père juste, le monde ne t'a point connu, mais je t'ai connu, joie, 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 et pleure de joie. » Et cet homme a été totalement transformé suite à cette expérience qui, on le voit, il n'arrive pas à traduire avec des mots. C'est quelque chose de tellement extraordinaire qu'il ne peut pas le décrire. Je vous invite aujourd'hui à rentrer dans une expérience un peu similaire qu'a connue Pierre, Jacques et Jean, les disciples de Jésus, qui ont connu une révélation à un moment donné extraordinaire, qu'eux aussi auront du mal à exprimer par des mots, mais qui va profondément marquer leur existence et marquer leur vie. Cette expérience dont ils n'ont pas tout compris sur le moment, c'est la transfiguration. Et je vous invite à réfléchir sur ce texte ce matin. Donc je vous invite à lire dans l'Évangile de Luc, au chapitre 9, à partir du verset 28. Environ 8 jours après qu'il eut dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et voici, 2 hommes s'entretenaient avec lui. C'était Moïse et Élie, qui, apparaissant dans la gloire, parlaient de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient appesantis par le sommeil. Mais s'étant tenus éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les 2 hommes qui étaient avec lui. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Mais il ne savait pas ce qu'il disait. Comme il parlait ainsi, une nuée vint les couvrir. Et les disciples furent saisis d'une frayeur en les voyant entrer dans la nuée. Et de la nuée sortit une voix qui dit, « Celui-ci est mon fils élu, écoutez-le. » Quand la voix se fit entendre, Jésus se trouva seul. Les disciples gardèrent le silence. Ils ne racontèrent à personne en ce temps-là rien de ce qu'ils avaient vu. Alors tout d'abord, peut-être quelques éléments sur le contexte de ce récit. Il se situe à la fin du ministère de Jésus en Galilée. Jésus vient d'envoyer en mission les 12 disciples. Ils chassent les démons, ils guérissent les malades, ils annoncent le royaume. Et ils reviennent très enthousiastes de cette expérience. Ils viennent d'avoir également le miracle de la multiplication des pains qui leur montrait que ce ministère qui leur était donné n'était pas par leurs propres ressources, mais que c'était Dieu lui-même qui pourvoyait. Mais Jésus fait à ce moment-là deux annonces qui vont un petit peu les troubler. Il leur dit d'abord que dans ce ministère, il convient de renoncer à sa vie et de porter sa croix. C'est un programme qui est un petit peu moins réjouissant. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Première annonce de Jésus. Deuxième annonce, Jésus annonce sa mort sur la croix et sa résurrection. Il ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrît beaucoup, qu'il fût rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il fût mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Il y a une profonde incompréhension des disciples. On se rappelle qu'eux marchent avec Jésus pour venir régner à Jérusalem. Avec lui, c'est ça qu'ils attendent. Ce n'est pas tout à fait ce que Jésus annonce. Pierre vient de reconnaître Jésus comme le Messie. Mais le programme qui est devant eux ne paraît pas correspondre à leurs attentes. Et dans cette perplexité, Jésus fait une promesse juste avant ce miracle de la transfiguration. Il leur dit au verset 27, « Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu. » De quoi s'agit-il? Quel est l'avènement de ce royaume? Et le récit de la transfiguration va donner signification, évidemment, à tout cela. On va le voir, les disciples en comprendront le sens que plus tard. Alors, je vous invite à réfléchir autour de ce texte en deux temps. Donc, le premier, c'est la montée sur la montagne, où on découvre la gloire, la puissance de Dieu. Quelque chose d'absolument extraordinaire, qui a bouleversé les disciples. Et c'est une révélation, on parlait de Pascal au début, c'est une révélation qui les a évidemment profondément touchés et qui est un grand encouragement pour nous. La deuxième chose, c'est descendre de la montagne. Deuxième réflexion, quelle est l'implication de cette réalité spirituelle pour les disciples et pour nous aujourd'hui? Donc commençons par la montée vers la montagne, donc la manifestation de cette gloire de Dieu. On peut d'abord remarquer qu'elle va intervenir, il est dit 8 jours après qu'il eut dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. Alors il y a eu beaucoup de commentaires sur ces 8 jours, Luc parle de 8 jours, Matthieu et Marc parlent de 6 jours, certains ont vu un symbolisme 6 jours, et puis le septième jour, le jour de l'accomplissement, de la perfection. Bon, là, je pense que ce n'est pas le problème principal. Ce qu'on peut remarquer, c'est que Pierre, Jacques et Jean sont invités pour un temps de recueillement, un temps de prière. Et on sait que Jésus avait l'habitude de se retirer, souvent pendant la nuit, sur la montagne ou dans des lieux retirés pour prier, pour être à la rencontre avec son Père. La montagne est dans la Bible un lieu de rencontre avec Dieu. une montagne, il faut la gravir, il faut arriver au sommet. Il y a un effort pour cela. Et donc ça évoque un temps, un effort qu'on peut prendre, un temps qu'on peut réserver pour trouver Dieu. Cette montée sur la montagne est évidemment un symbole dans la Bible qui est très fort. On pense à la révélation de la gloire de Dieu, à l'alliance avec le peuple d'Israël sur le mont Sinaï, au sommet de la montagne. On pense à Élie également qui rencontre Dieu toujours au sommet de cette même montagne. Au niveau des prophéties également, le lieu où se trouve Dieu, le temple de Dieu à Jérusalem, le lieu où le Messie va régner, c'est sur le mont Sion, au sommet du mont Sion à Jérusalem. C'est le lieu prophétique du règne de Dieu. Donc on voit qu'il y a toute une signification dans le fait de monter sur cette montagne. Il est dit dans Ésaïe, il arrivera dans la suite des temps, que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. Alors la première question qu'on peut se poser, est-ce qu'on prend le temps, nous, de monter à cette montagne, ce temps de recueillement, ce temps de recul par rapport à nos activités, à notre quotidien, où on est pris par beaucoup de choses. Jésus était très occupé aussi par les foules qui étaient auprès de lui, mais il prenait ce temps. Et là, on voit qu'il prend Pierre, Jacques et Jean pour ce moment-là. On remarque aussi que c'est une révélation particulière qui ne concerne que trois disciples. Ce n'est pas tous les disciples. Donc on s'est un peu posé la question, pourquoi ? Je pense parce que ces disciples-là avaient besoin particulièrement d'avoir cette révélation. Il s'agit, Pierre, Jacques et Jean, des futurs fondateurs de la nouvelle Église, des responsables de l'Église naissante qui allait être établie à Jérusalem et, on sait, et se répandre dans le monde romain. Pierre et Jacques étaient les responsables de l'Église de Jérusalem. Il leur fallait donc une expérience forte qui devait marquer effectivement leur mission par la suite. Dieu accorde des révélations donc particulières selon sa volonté, en fonction des besoins de chacun, comme un père qui nous aime. Mais il s'agit toujours d'une grâce particulière de Dieu. On ne peut pas provoquer, créer cette révélation. C'est Dieu qui la donne à un moment donné. Et les autres disciples n'étaient pas présents à la transfiguration, mais ils ont cru et ils ont marché avec Dieu. La foi n'est donc pas basée sur ce type d'expérience. Elle n'est pas basée sur ce que l'on voit. Hébreux 11 nous dit « La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Donc, Pierre, Jacques et Jean sont montés pour un temps de recueillement sur la montagne. Ils ont été invités spécialement par Jésus parce que c'était quelque chose dont ils avaient besoin. Et je pense qu'on n'a pas, nous, à rechercher des expériences surnaturelles, des révélations extraordinaires ou nouvelles pour renouveler notre marche avec Dieu. Dieu peut nous accorder cela, si c'est sa volonté, mais nous devons seulement lui faire confiance, par la foi. Alors venons-en maintenant à la révélation sur cette montagne. Donc on pense que c'est le mont Tabor donc, qui domine le lac de Tibériade. Il nous est dit au verset 29, « Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea, et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. » Dans Matthieu, il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs, comme la lumière. Et dans Marc, ses vêtements devinrent resplendissants, et d'une telle blancheur qu'il n'est pas de foulon sur la terre qui puisse blanchir ainsi. Donc Jésus est brutalement transformé, transfiguré, c'est le terme grec qui est employé, c'est métamorphosé, C'est l'idée de métamorphose, c'est-à-dire de transformation de l'apparence extérieure, mais sans toucher à la nature profonde. Et donc Jésus apparaît ainsi dans la plénitude de sa gloire. Il laisse son apparence humaine pour un temps, pour apparaître tel qu'il est dans sa gloire. Donc en plusieurs caractères, un visage resplendissant comme le soleil. Le visage, c'est la synthèse un petit peu de la personne, c'est le lieu de la rencontre aussi avec les autres. La lumière éclatante comme le soleil, c'est une image de Dieu lui-même dans la Bible. Une clarté tellement forte qu'on ne peut pas la regarder. Cela fait référence dans l'Ancien Testament aussi au visage de Moïse qui resplendissait sur la montagne après avoir parlé avec Dieu. Cette gloire de Dieu était sur lui et resplendissait autour de lui. Il est dit qu'il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Aaron et tous les enfants d'Israël regardèrent Moïse et voici la peau de son visage rayonnait et ils craignaient de s'approcher de lui. Il est question de vêtements brillants et d'une blancheur éclatante. On a l'impression que les vêtements ne parviennent pas à cacher la lumière qui émane du corps lumineux. Et donc les vêtements brillent. Ensuite, il est question d'une blancheur éclatante, on insiste à plusieurs reprises à ce sujet-là, qui est certainement une référence à la pureté, à la perfection complète qui se trouve en Dieu. Une blancheur qu'on ne peut pas voir, qu'on ne peut pas trouver sur la terre. Et Jean, qui est présent lors de cette manifestation, a vu Jésus glorifié, lui aussi, une deuxième fois. Et il en fait part dans l'Apocalypse. Et on retrouve beaucoup de points communs avec cette vision de Jésus glorifié ici. Il est dit que sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles, de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. C'est quelque chose d'absolument extraordinaire, d'indescriptible. On voit bien que les mots ne parviennent pas à saisir cette grande réalité auquel les 3 disciples sont brutalement confrontés. Je pense que voir la gloire de Dieu constitue la révélation la plus extraordinaire qu'un être humain peut connaître, certainement. Les disciples, voilà la préfiguration de la gloire à venir, malgré tout ce qui allait suivre, toutes les difficultés, on le sait, la marche vers la croix et les persécutions de la nouvelle Église. Et je crois que c'est pour nous un profond encouragement dans la situation où nous nous trouvons. Nous avons un grand Dieu auprès de nous. Nous avons le roi des rois, le seigneur des seigneurs, qui a la majesté, l'autorité, la gloire. Et notre destinée est de participer, d'être rendu participant à cette gloire que nous ne méritons pas. Dans Matthieu 13, 43, il est dit « Les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père ». On voit que cette gloire était projetée sur Moïse, mais elle est projetée aussi sur les rachetés dans le royaume de Dieu. Il y a une réalité, évidemment, qu'on a du mal à comprendre aujourd'hui, mais qui est absolument extraordinaire. Donc, sur cette montagne, cette manifestation de gloire. Deuxième aspect, Moïse et Élie qui apparaissent et qui s'entretiennent avec Jésus. On ne sait pas comment les disciples reconnaissent instantanément Moïse et Élie. Il y a certainement quelque chose de la révélation aussi, je pense, à ce moment-là. Deux hommes s'entretenaient avec lui, c'était Moïse et Élie, il est dit au verset 30 et au 31, qui apparaissent dans la gloire. il parlait de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. La présence de Moïse et Élie prouve bien que le Messie attendu est bien Jésus. Jésus s'inscrit dans l'histoire d'Israël, dans l'histoire de l'Ancien Testament. Moïse représente la loi, l'alliance avec le peuple d'Israël. Élie représente les prophètes de l'Ancien Testament qui ont annoncé la venue du Messie. On voit qu'ils apparaissent aussi dans une forme glorieuse et qu'ils sont rendus participants à la mission de Jésus puisqu'ils parlent du départ qu'il allait accomplir à Jérusalem, de sa mort et de sa résurrection. On a donc la confirmation que la mort de Jésus qui va intervenir sur la croix était prévue par les prophètes de l'Ancien Testament, était attendue par Moïse, fait partie du plan éternel de Dieu. Et c'était quelque chose de tout à fait essentiel pour les Juifs. Jésus n'annonçait pas quelque chose de nouveau, et les disciples devaient le comprendre. Cette certitude, donc, a été tout à fait essentielle pour Pierre, Jacques et Jean, évidemment, par la suite, lorsqu'ils ont pu comprendre. Je pense que la présence de Moïse et Élie est également pour nous un encouragement pour nous montrer que la mort n'a plus de pouvoir dans le royaume de Dieu. La mort n'est pas une issue fatale, la fin, un échec définitif devant Dieu. Après leur mort et avant la résurrection, on voit que les rachetés sont en sécurité auprès de Dieu, sont auprès de lui. Et il n'y a pas de rupture dans la relation, évidemment, d'amour entre Dieu et les rachetés pendant cette période-là. Dans Matthieu, il est dit, « Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit ? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants. » Et dans l'Apocalypse, à la suite de la deuxième vision qu'a eue Jean de Jésus glorifié, il dit « J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Donc je pense que c'était un profond encouragement également pour les disciples qui allaient affronter la persécution et pour beaucoup d'entre eux, la mort comme martyr dans les débuts de l'Église. Et je crois que c'est un même encouragement pour nous aujourd'hui, au milieu des épreuves aussi qu'on peut traverser, ou dans notre face-à-face que nous avons tous avec la mort. Donc je pense qu'on a vraiment dans cette vision ces deux dimensions également qui peuvent nous encourager. Donc on a vu la manifestation lumineuse, la transformation du corps de Jésus. On a vu également la présence de Moïse et d'Élie. Troisième aspect, c'est la nuée. La nuée est la voix qui se fait entendre. Comme il parlait ainsi, une nuée vint les couvrir, et les disciples furent saisis de frayeur en les voyant entrer dans la nuée. Et de la nuée sortit une voix qui dit « Celui-ci est mon fils élu, écoutez-le ». La nuée évoque aussi la présence divine. C'est une image évidemment très importante dans l'Ancien Testament. On sait que la nuée était sur le mont Sinaï lorsque Dieu a passé son alliance avec son peuple. La gloire de l'Éternel, il est dit dans l'Exode, reposa sur la montagne de Sinaï et la nuée la couvrit. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne aux yeux des enfants d'Israël. Moïse entra au milieu de la nuée et il monta sur la montagne. Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Et c'est de nouveau Moïse qui est là et qui entre dans cette nuée de la transfiguration. Il y a une continuité évidente. La nuée apparaît aussi évidemment sur le tabernacle pendant toute la marche du peuple d'Israël dans le désert. Elle apparaissait comme un feu pendant la nuit. Et c'est cette nuée qui a guidé le peuple d'Israël pendant 40 ans dans le désert. Cette nuée, c'est la présence de Dieu, c'est une image de l'Esprit de Dieu aussi qui est au milieu de son peuple. La nuée apparaît à nouveau sur le temple de Jérusalem. Après la dédicace, la présence de Dieu se manifeste par la nuée. Et dans Ésaïe, les questions, également, elle a un aspect prophétique. Ésaïe 4:5 nous dit « L'Éternel établira sur toute l'étendue de la montagne de Sion et sur ses lieux d'assemblée une nuée fumante pendant le jour et un feu de flamme éclatante pendant la nuit, car tout ce qui est glorieux sera mis à couvert. » Idée de la présence, de la gloire de Dieu qu'on retrouve également tout au long de l'Ancien Testament. Et dans cette nuée, une voix se fait entendre. La voix de Dieu sort de la nuée. Elle atteste que Jésus est bien le Messie, le Fils de Dieu. Le même témoignage qu'on a eu lors du baptême de Jésus, qui est cette fois adressé aux disciples. Et il avait été dit, donc, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection lors du baptême. » Là, Jésus était baptisé, cette fois il est en haut de la montagne, et il est certifié qu'il est lui-même le Fils de Dieu. Donc, il y a quelque chose qui sera indélébile, je pense, dans le souvenir des disciples. Cette expérience sera fondatrice pour eux. Et je crois que nous devons, nous aussi, nous souvenir de cette gloire. Nous avons un Dieu glorieux, nous avons un Dieu puissant. Tout est fait un petit peu dans notre société pour qu'on oublie évidemment ces réalités. Nous passons maintenant à la deuxième réflexion, qui est celle de descendre de la montagne. Et donc on va voir la réaction des disciples face à cette situation. Il est dit dans verset 32 que Pierre et ses compagnons étaient appesantis par le sommeil. Mais s'étant tenus éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes qui étaient avec lui. Donc on a l'impression qu'ils ne se sont pas trop préparés, comme au jardin de Gethsémané, où ces trois disciples accompagnaient Jésus. Jésus priait, mais il semble qu'eux n'ont pas pu veiller avec lui et se sont endormis. Et ils sont surpris, ils sont réveillés par cette vision extraordinaire. Et la réaction, évidemment, on le comprend, c'est d'être effrayé, d'être saisi d'effroi. Et on peut s'imaginer ce que ça peut représenter. Ils ne savaient que dire, l'effroi les avait saisis. C'est ce qui est dit à plusieurs reprises. Il est dit que leur peur s'accroît lorsqu'ils entendent la voix qui sort de la nuée. Luc, au verset 9, 34, nous dit « Comme il parlait ainsi, une nuée vint les couvrir, et les disciples furent saisis de frayeur en les voyant entrer dans la nuée. » Et dans Matthieu, il est même dit que lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leur face et furent saisis d'une grande frayeur. Face à la perfection, à la gloire de Dieu, l'homme prend conscience de son péché, de sa imperfection profonde qui le destine naturellement à la colère de Dieu. L'homme ne peut pas, par lui-même, soutenir cette puissance, cette gloire et cette perfection de Dieu. On se rappelle la terreur du peuple d'Israël devant le mont Sinaï qui était couvert par la nuée. Dans le Deutéronome, il est dit « Et maintenant, pourquoi mourions-nous, car ce grand feu nous dévorera ? Si nous continuons à entendre la voix de l'Éternel, notre Dieu, nous mourrons. Quel est l'homme, en effet, qui ait jamais entendu comme nous la voix du Dieu vivant parlant du milieu du feu et qui soit demeuré vivant ?» L'apôtre Jean, lorsqu'il a sa deuxième vision de Jésus glorifié, il dit « Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. » On ne peut pas soutenir la gloire de Dieu. Et à ce moment-là, Jean nous dit, il posa sur moi sa main droite en disant, « Ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant, etc. » Donc on voit que seule la grâce de Dieu nous permet de nous tenir debout devant lui. Il est important pour nous de garder cette juste vision de Dieu. Nous n'avons pas un Dieu qui tolère les choses, qui, comme les êtres humains, fait des compromis et conciliants. Nous avons un Dieu saint, un Dieu parfait devant qui nous ne pouvons pas tenir. Un Dieu que nous devons craindre, un Dieu que nous devons respecter dans notre vie. Et je crois que c'est une réalité aussi que notre, notre monde, notre société nous cache, nous éloigne. Mais nous devons toujours revenir à cette réalité-là. Donc, première réaction des disciples, ils sont effrayés, ils ont peur, ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire. Deuxième approche, qui paraît un petit peu contradictoire, c'est la proposition de Pierre. Pierre prend la parole et dit « Maître, il est bon que nous soyons ici, dressons trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Il est bon de se tenir dans la présence de Dieu. Il y a une plénitude, il y a une paix, il y a une joie, il y a quelque chose d'extraordinaire. » Et on a l'impression que Pierre veut garder cette... veut rester dans cet état. Il propose de faire trois tentes, ce qui paraît un peu dérisoire. La tente, c'est l'habitat le plus précaire qu'on puisse imaginer, le plus fragile, le plus itinérant. On a l'impression que c'est les moyens humains qu'on voudrait mettre en œuvre pour essayer de garder, de capter cette bénédiction, cette révélation de Dieu pour nous. Mais on voit que c'est tout à fait dérisoire, évidemment. Cette volonté de rester sur la montagne peut avoir deux motivations possibles, je pense. Prolongation, donc, comme on vient de le dire, de cette expérience du ciel sur la terre. Essayer de la prolonger, de la rechercher artificiellement par nos propres moyens, de la retenir. Ça peut être aussi une volonté de fuir nos réalités quotidiennes, qui ne sont pas toujours faciles, nos épreuves, nos difficultés qu'on doit affronter jour après jour. On préfère finalement rester sur cette montagne et se reposer de tout ce qu'il y a autour. Et on voit que ce n'est pas du tout ce qui est retenu. La voix nous appelle à descendre de la montagne. Il est dit, « Celui-ci est mon fils élu, écoutez-le. » L'obéissance dans mon domaine d'action est là aussi préférable à la recherche d'expériences exaltantes qui pourraient nous transcender. Le contenu du message s'exprime par un appel à écouter Jésus. La révélation de la gloire de Dieu a pour but l'obéissance. Elle n'a pas pour objectif de nous enfermer dans une contemplation mystique, éloignée du monde et de nos problèmes qu'on a à gérer. Elle doit se manifester dans notre vie de tous les jours et dans notre écoute et dans notre mise en pratique de la volonté de Dieu. Il fallait descendre maintenant de cette montagne. Cela n'allait pas durer, c'est une grâce particulière, mais maintenant il fallait descendre et écouter Jésus, parce qu'on savait qui il était et pourquoi on l'écoutait. Je pense à l'exemple de Marie qu'on avait évoqué lors du miracle de Cana, elle dit simplement à Jésus, aux gens qui étaient là, écoutez-le. Ben c'est ça, finalement, qui est demandé. C'est une écoute pratique. Et je crois qu'on peut se demander, chacun de nous, que veut dire écouter Dieu aujourd'hui, là où je me trouve, dans ma situation. Peut-être dans un temps de vacances qu'on pourra avoir, les uns ou les autres, c'est peut-être un moyen privilégié aussi de se poser la question, que veut dire pour moi écouter Dieu aujourd'hui dans la situation où je suis. Et on voit que quand la voix se fit entendre, Jésus se trouva seul. Tout s'est arrêté, tout est redevenu normal juste après cette parole. Écoutez-le. Il ne reste plus que l'appel à marcher dans l'obéissance et à redescendre de cette montagne. Il convient d'affronter à nouveau, pour les disciples, l'opposition croissante des chefs religieux, l'incrédulité du plus grand nombre, la marche vers la crucifixion. Pourtant, rien n'est comme avant. Cette révélation de Jésus glorifié, comme je l'ai dit, restera une expérience inoubliable, fondatrice pour ces trois disciples. Pierre l'évoque dans 2 Pierre, au chapitre 1, les versets 16 à 19. Il nous dit « Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire. Quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. On voit combien pour eux cette expérience a été importante. Alors évidemment, il y a donc la réaction des disciples, la frayeur, la volonté de rester sur cette montagne, mais la volonté de Dieu, c'est d'en redescendre. Et donc on se heurte ici à l'incompréhension des disciples à ce moment-là sur la véritable mission de Jésus. Ils ont saisi que Jésus était le Messie, le Fils de Dieu, et Pierre vient de le confesser. Mais ils ne comprennent pas sa mission. Lorsque Jésus a annoncé qu'il allait être mis à mort, Pierre a refusé. Il a dit « Non, cela ne t'arrivera pas ». Et il se demande, il est dit un petit peu plus loin, ce que signifie ressusciter d'entre les morts lorsqu'ils descendent de la montagne. On voit qu'ils sont complètement dans une autre perspective à ce niveau-là. Et ce que je trouve beau, c'est que ces hommes qui n'ont pas compris ont été des instruments magnifiques au service de Dieu. Je crois que nous, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses que nous ne comprenons pas. Mais Dieu nous utilise, nous fait participer à sa gloire. C'est la raison pour laquelle ils n'en parlent à personne. Parce qu'ils ne comprennent pas vraiment tout cela. Il est dit, quand ils descendaient de la montagne, Jésus leur recommanda de ne dire à personne ce qu'ils avaient vu, jusqu'à ce que le Fils de l'homme fût ressuscité des morts. C'était là la clé. Ils retinrent cette parole, se demandant entre eux ce que c'est que ressusciter des morts. Donc je pense que Jésus leur recommande de ne pas en parler, parce que cela risquait de créer beaucoup d'incompréhension. Eux attendaient toujours, je vous le rappelle, que Jésus prenne le pouvoir à Jérusalem et chasse tous les ennemis. Donc, ils n'étaient pas à même d'expliquer cette vision. On ne pouvait l'expliquer que par la résurrection. Alors, en conclusion, on peut dire que nous non plus, donc nous ne comprenons pas tout le plan de Dieu pour notre vie, mais nous sommes appelés à rechercher la gloire et la puissance de Dieu dans une société qui relativise tout et nous fait oublier cette grande, extraordinaire réalité de Dieu souverain, roi des rois, seigneur des seigneurs, tout puissant dans la gloire. Et nous sommes appelés à lui faire confiance et lui obéir dans notre domaine d'action, malgré nos épreuves, nos difficultés, nos contradictions, nos faiblesses, nos incompréhensions, comme les disciples. Parce qu'il est à l'œuvre. Nous sommes à la fois appelés à monter sur la montagne pour retrouver Dieu, et puis à en redescendre pour vivre et marcher dans ce qu'il nous a donné. Dans cette attitude, nous pourrons percevoir quelque chose de sa gloire. On pourra commencer à voir son royaume. Et je reviens sur le verset 27 qui dit « Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point ». Qu'il n'ait vu le royaume de Dieu. Dans cette perspective, on commence à rentrer dans cette réalité. Et comme Moïse et Élie, on est aussi appelé à participer au projet de Dieu et faire d'ores et déjà partie de son royaume qui est caché aujourd'hui. Et je terminerai par 2 Corinthiens 3 qui nous dit « Nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir » la gloire du Seigneur, on sait que les miroirs à l'époque étaient de très mauvaise qualité, on voyait très mal au travers. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. C'est pourquoi, ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Amen.